Chapitre 4. Écorce elfique. L'écorce elfique, appelée avec plus d'exactitude écorce de delphier, est un stimulant puissant, mais qui possède un effet secondaire malheureux, celui d'engendrer chez l'usager des sentiments d'abattement et d'inquiétude. Pour cette raison, les propriétaires d'esclaves de Calcède s'en servent pour accroître le nombre d'heures de travail de leur main-d'œuvre tout en étouffant chez elles toute velléité de rébellion. Sa prise régulière sur une longue période de temps provoque une dépendance et certains assurent que son ingestion, même ponctuelle, peut changer de façon définitive le tempérament, rendre méfiant jusqu'envers ses proches et saper sa propre confiance en soi. Pourtant, malgré tous ces inconvénients, ce produit peut conférer en cas de nécessité une énergie qui vaut de courir ses risques, et ses résultats sont moins imprévisibles que ceux de la graine de carie ou de la sindine, en ceci que ces dernières drogues peuvent induire de violents sursauts émotionnels et une euphorie artificielle qui risque de déboucher sur des actes irréfléchis et dangereux. On trouve la meilleure qualité d'écorce elfique à l'extrémité des nouvelles branches des très vieux arbres. On pratique une incision le long de la tige, puis une autre sur son pourtour à chaque bout de l'entaille. On insère alors l'ongle ou la pointe d'un couteau sous l'écorce qu'on décolle soigneusement du bois. Une fois détachée, elle se roule aussitôt en cylindre. On la range ainsi dans un sachet que l'on place dans un endroit sec et frais jusqu'à ce que sa dessiccation permette de la réduire en une poudre qu'on fera infuser comme une tisane. En cas de besoin immédiat, on peut préparer une décoction d'écorce fraîchement récoltée. Mais il est beaucoup plus difficile de préjuger l'efficacité du breuvage à partir de sa couleur. Table des simples, par Réchal. Je sortis très tôt de la tente du fou, alors que tout le monde dormait encore. J'avais eu un sommeil agité, tenaillé par des cauchemars informes. À l'approche de l'aube, allongé, les yeux ouverts, j'avais regretté de ne pas posséder le don d'ortie pour manipuler ses rêves angoissants, et cette réflexion m'avait fait penser à ma fille. Il fallait que je parle avec Imbre et Devoir en privé, sans même lourd. Je gagnai d'abord la périphérie du camp pour me soulager. Adroit, de garde, me salua de la tête au passage. Puis je me rendis à la tente du prince en m'efforçant de me déplacer sans bruit. J'avais oublié que j'avais laissé l'Est en sentinelle auprès de Devoir. L'enfant devait avoir l'ouïe et la méfiance d'un renard, car à mon approche, le rabat s'entr'ouvrit et j'aperçus non seulement ses yeux vigilants, mais aussi la pointe d'une flèche encochée dans son arc. « C'est moi, » dis-je précipitamment, et je me rassurai en le voyant détendre sa corde et baisser son arme. Je me creusai la cervelle pour trouver une tâche qui l'éloignerait. Je finis par lui demander d'aller recueillir de la neige propre et de la faire fondre afin de procurer au prince de l'eau pour ses ablutions, en lui recommandant de ne pas s'aventurer au-delà du périmètre jalonné. Dès qu'il se fut mis en route, un seau à la main, je me glissai dans la pénombre de la tente. « Êtes-vous réveillé ?» demandai-je à mi-voix. Devoir poussa un grand soupir. « Maintenant, oui. J'ai l'impression de n'avoir quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Sire Imbre ?» Un grognement étouffé lui répondit. Le vieillard avait tiré ses couvertures par-dessus sa tête. « Il faut que je vous entretienne d'un sujet important, et je dois faire vite, avant le retour de l'Est, » dis-je. Imbre souleva un coin de couverture.
« Eh bien, parle !»
Il bâilla sans décrocher la mâchoire.
« Je suis trop vieux pour camper dans la neige après avoir marché toute la journée, »
marmonna-t-il d'un ton accusateur, comme s'il m'en attribuait la faute. J'ai discuté avec le fou hier soir, après sa bagarre avec Civil.
« Ah, et nous, nous avons discuté avec Civil, ou plutôt nous avons subi ses reproches, qui ont duré assez longtemps. Je n'avais pas mesuré à quel point la comédie que vous aviez jouée à Castelmyrte avait été convaincante. Notre jeune ami s'inquiétait éperdument que nous laissions l'Est seul en compagnie de Sire Doré, » répondit Imbre d'un ton ronchon.
Devoir rit tout bas. Je fronçai les sourcils. Il préfère se raccrocher à cette fable plutôt qu'affronter la vérité telle que le fou me l'a exposée. Selon lui, les parents de Sidèle, ou du moins l'un d'eux, est le traître qui a livré Devoir au pis. Je soupçonne le père d'avoir rompu les fiançailles, peut-être davantage parce que Civil s'est dressé contre les pies qu'à cause de la conduite inconvenante de sa fille. Humbre pointa le nez. Il réfléchit, tournant les pièces en tous sens pour voir comment elles s'emboîtaient. Puis, il finit par déclarer comme à contre-cœur
« Oui, il pourrait bien avoir raison. Les parents de Sidel occupaient la position idéale pour organiser tout ce qui s'est passé. Oh, que n'ai-je un oiseau messager de plus pour prévenir la reine ? Mais j'en possède un pour Castelserre, un autre pour le Hedgurde, afin de requérir qu'on vienne nous chercher, et pas un de plus. »
Je haussai les sourcils. Lourd et Horty ? Demandai-je sans embâge. Avait-il mis le prince au courant ? Il secoua la tête, et ses cheveux blancs s'ébouriffèrent dans ses couvertures.
« Non, employer ce lien pour des informations d'une telle portée serait prématuré. Songe aux conséquences si l'un des deux interprétait mal le message, ou si ta fille refusait de croire les éléments que lui enverrait Lourd. Non, il faut les former, puis mettre ce moyen de communication à l'épreuve, avec envoi et réception de messages simples, avant de pouvoir nous reposer sur lui pour des objectifs sérieux. »
Il poussa un grand soupir dans lequel j'entendis un reproche inexprimé à mon intention.
Lourd couchera dans notre tente la nuit prochaine. Avant qu'il ne s'endorme, Devoir le priera de transmettre ses salutations à Horty et de lui remettre un message sans complication à destination de la reine, formulé de telle façon qu'elle devra y répondre. Cela exigera quelques réflexions de notre part. Si tout se passe bien, nous essaierons un échange plus long la nuit suivante, mais nous ferons part de nos soupçons à Sa Majesté par ce moyen uniquement quand nous aurons la certitude qu'ils arriveront sans subir de distorsion. »
Il hocha la tête puis se tourna vers le prince.
« D'accord. »
« D'accord. » Devoir poussa lui aussi un léger soupir. « Espérons que la reine, je n'en crois pas un mot, daignera communiquer avec moi par le biais de l'art. » Et il m'adressa un regard entendu qui me rendait clairement responsable du fait que sa cousine et lui ne se connaissaient pas.
J'ai agi selon ce que je jugeais le mieux,
dis-je avec raideur. Et Humbre, toujours prêt à profiter du plus petit avantage, acquiesça d'un ton suave.
Mais naturellement, les motifs les plus élevés dictent toujours ta conduite, Fitz. « Cependant, la prochaine fois que tu devras prendre une décision importante en te fondant sur ce que tu juges le mieux, rappelle-toi notre situation actuelle et songe que j'ai quelques années d'expérience de plus que toi. Tu accorderas peut-être un peu plus de poids à mon avis en la matière. »
« Je n'oublierai pas vos conseils, » répondis-je avec un formalisme guindé. Jamais je n'aurais cru voir ma loyauté tiraillée entre Humbre et le fou comme un chiffon que se dispute deux chiots. Chacun avait accepté que le choix me revint, mais apparemment, l'un et l'autre estimaient nécessaire de m'aider pour l'effectuer. Le retour de l'Est avec un seau plein de neige me donna un prétexte pour prendre congé. Le prince me regarda sortir, l'air pensif, mais je ne sentis nulle tentative de contact d'art de sa part. Le camp s'était éveillé sur ces entrefaites. Crible m'apprit que Péotr, tôt levé, s'était porté en avant pour reconnaître la première partie de notre trajet. Il n'aimait pas le vent doux et chargé d'humidité qui soufflait sur la neige. Même Lourd avait quitté son lit et s'activait à éparpiller dans la tente le contenu de son paquetage pour trouver des vêtements propres. Je lui expliquai que nous n'avions emporté que le strict nécessaire et que nous garderions nos tenues de la veille. Comme il se renfrognait, je lui rappelais qu'à son entrée au service du prince, il ne possédait qu'un seul change. Il plissa le front, réfléchit intensément, puis secoua la tête en déclarant n'avoir aucun souvenir d'une telle période. Sans chercher à discuter, je l'emmitouflai chaudement et le fis sortir afin que les gardes puissent démonter la tente. Je nous procurai de quoi manger, du gruau et un peu de poisson salé. Ce petit déjeuner n'enchanta pas Lourd plus que moi, mais nous dûmes nous en contenter. Puis j'entrepris d'alléger son sac en remplissant le mien, tout en lui tenant des propos encourageants sur la journée à venir. Maintenant que nous avions appris à nous déplacer sur le glacier, nous progresserions plus vite et resterions à la hauteur de l'ensemble du groupe. Il acquiesça de la tête, mais son manque de conviction ne laissa pas de m'inquiéter. Avec un détachement fin, je dis: Je n'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai fait de mauvais rêves. Mais je suppose qu'Orti t'a tenu compagnie et qu'elle t'avait préparé des songes agréables.
Non.
Il ôta une de ses moufles pour se gratter le nez, puis prit quelques instants pour la remettre.
Il y avait des cauchemars partout,
fit-il d'un air sombre.
Orti ne les a pas changés. Quand je l'ai appelée, elle a seulement répondu. Viens, écarte-toi, tourne-leur le dos. Mais je n'ai pas pu, parce qu'il y en avait partout. J'ai marché longtemps, longtemps dans la neige, mais les rêves s'approchaient toujours de moi pour me regarder.
Il retira de nouveau sa moufle et se cura le nez avec application.
Il y en avait un avec des vers pleins des narines, comme des crottes de nez, mais qui se tortillaient. J'ai cru que moi aussi j'avais des asticots dans le nez.
Non, lourd, tu n'as rien de tel, n'y pense plus. Viens, faisons un tour pour voir comment se débrouillent les autres. Nous étions parmi les premiers prêts à partir. Il me tardait que nous nous mettions en route, car des nuages bas envahissaient le ciel jusque-là limpide. L'air était chargé d'humidité, et je redoutais qu'il ne plût ou ne neigea bientôt. J'avais l'impression que notre troupe mettait un temps fou à se préparer. Bien que Péotre parcourut le camp en jetant sans cesse des coups d'œil inquiets aux nuées et en nous adjurant de nous hâter. Lourd commença de se plaindre d'être trop fatigué pour marcher et trop embarrassé de ses épaisseurs de vêtements. Pour lui changer les idées, je l'emmenai voir le fou démonter sa tente. L'Est se trouvait déjà là. Il avait posé son sac à dos, avec son carquois et son arc proprement rangé par-dessus, et suivait les instructions du fou pour désassembler les piquets de bois qui soutenaient le tissu léger. J'observai au passage qu'il avait remis en compagnie de ses semblables la flèche avec laquelle il m'avait visé la veille. La tente s'abattit promptement. Les piquets se déboîtaient en segments de la longueur d'un carreau d'arbalète de bonne taille. Quant au brasero, que j'avais cru en argile, je le ramassai, poussé par la curiosité, et lui découvris un poids étonnamment faible et une texture presque poreuse. Les couvertures arachnéennes se réduisirent à un paquet gros comme un petit coussin. Une fois que tout y fut rentré, le paquetage du fou se révéla volumineux, et sans doute plus pesant que le mien, même avec les affaires de lourd. Pourtant, il passa les bras dans les sangles et le souleva sans effort apparent. Jamais je n'avais vu plier et ranger un bivouac aussi vite, ni aussi efficacement, et mon admiration pour le talent technique des anciens s'accrut encore. Ce sont les anciens qui ont fabriqué ces objets merveilleux avant de disparaître. Je m'interroge toujours sur ce qui a causé leur extinction. J'essayais moins d'engager une conversation que de distraire l'ours qui se grattait le nez de nouveau. Quand les dragons ont péri, ils ont péri avec eux. Les uns ne pouvaient vivre sans les autres. Le fou s'était exprimé sur le ton de l'évidence, comme il aurait dit que les feuilles des arbres étaient vertes et le ciel bleu. Avant que j'eusse le temps de répondre à cette déclaration extraordinaire, l'ours cessa de se curer les narines et demanda
« C'est quoi un ancien ?»«
Personne n'en sait rien, » fis-je, puis je m'interrompis en voyant l'expression du fou. On eût cru qu'il allait éclater si je ne le laissais pas parler. Quand en avait-il appris autant sur le sujet, et pourquoi décidait-il de le partager maintenant? L'Est, flairant une histoire intéressante, s'approcha. Les anciens appartenaient à un peuple très vieux, lourd. Vieux non seulement par le temps durant lequel il avait prospéré, mais aussi par le nombre d'années que vivaient ses membres. Je pense même que, chez certains, les souvenirs s'étendaient au-delà de leur existence individuelle, jusqu'à celle de leurs ancêtres. Le front plissé, le petit homme faisait des efforts pour comprendre. L'Est était suspendu aux lèvres du fou. J'intervins. S'agit-il de faits que tu connais ou seulement d'hypothèses? Il réfléchit un instant. Je suis aussi sûr de moi qu'il l'est possible en l'absence d'un ancien ou d'un dragon auquel me référer? Je restais perplexe. Un dragon? Pourquoi consulter un dragon à propos des anciens?
Ils sont indissociables.
Le fou avait paru choisir le terme avec soin. Dans tout ce que j'ai lu ou entendu, on ne trouve jamais l'un sans l'autre.
On dirait qu'ils se créent mutuellement ou qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. Je ne puis l'expliquer, je l'observe simplement.
Donc, si tu réussis à sauvegarder les dragons, tu ramèneras aussi les anciens ? Demandai-je impulsivement.
Peut-être.
Il eut un sourire incertain.
Je l'ignore, mais si cela se produisait, je ne crois pas que ce serait un mal.
Faute de temps, notre conversation s'arrêta là. Piotr, revenu de reconnaissance, nous pressait de nous mettre en route le plus vite possible. Le prince fit mander lourd et nous nous hâtâmes de le rejoindre. Imbre m'adressa un froncement de sourcils.
« De quoi vous êtes-vous entretenu si longuement ?»«
Des anciens, » répondis-je, conscient que Devoir et Lourd captaient notre échange. Sire Doré pense que, s'il parvient à ressusciter l'espèce des dragons, les anciens réapparaîtront aussi. Il a l'impression qu'il y a un lien entre eux, bien qu'il soit incapable d'en préciser la nature.
« Mais c'est tout !»«
Oui, je m'étais exprimé avec sécheresse. Je n'appréciais pas qu'il cherchât à me tirer les vers du nez. » Le silence de Devoir indiquait-il qu'il approuvait l'attitude d'Imbre ou qu'il la désapprouvait? Peu importait, au fond. Si l'heure venait vraiment où je devais décider de la survie ou de la mort du dragon, je ferais mon choix. En attendant, je refusais de me tourmenter et de trancher mes liens d'amitié avec quiconque. Piotr nous organisa en colonne et nous attribua cette fois, à Lourdes et moi, les places derrière la suite du prince. Il nous prévint que le vent tiède qui soufflait sur le glacier risquait de rendre la surface traîtresse. Nous devions suivre la piste établie en nous repérant sur les piquets et les fanions qui la marquaient, mais sans jamais oublier que de nombreuses saisons avaient passé depuis sa création et qu'il ne fallait pas s'y fier aveuglément. De fragiles croûtes de neige pouvaient couvrir des fissures récentes et présenter toutes les apparences de la solidité. Il nous avisa de nouveau de nous assurer de la résistance du sol avant chaque pas, puis, bâton en main, nous nous mîmes en chemin. Tout d'abord, Lourdes et moi tînmes assez bien la cadence imposée. Le petit homme toussait, mais moins que les jours précédents, et il avançait résolument sur ses jambes courtes. Piotr progressait plus lentement que la veille et enfonçait son bâton dans la neige à chacune de ses enjambées. Ses mises en garde contre le radoucissement du temps n'étaient pas vaines. La brise comparativement chaude qui dénoua bientôt nos capuches et nos cols sculptait des formes fantastiques dans la neige humide et les ombres bleuâtres qu'elle projetait donnaient un aspect onirique au paysage glacé que nous traversions. À deux reprises, Piotr s'écarta du chemin prévu. La première fois, il sonda la neige devant lui et elle céda, s'enfonçant d'abord légèrement, puis s'effondrant dans une profonde crevasse. Le vent avait déposé un pont de cristaux trop délicat pour supporter le poids d'aucune créature. Notre guide nous fit contourner l'abîme ainsi révélé. Notre second détour eut lieu dans l'après-midi. La fatigue et le découragement avaient gagné Lourdes. La neige imprégnée d'humidité collait à nos chausses et à nos bottes, et le gros de la troupe nous avait rapidement distancés, si bien que nous suivions ses traces de pas. Nous franchissions une longue crête basse quand nous la vîmes revenir vers nous. Piotr avait rencontré un sol mou dans lequel le bâton descendait jusqu'à la hauteur d'un homme de petite taille, et il avait rebroussé chemin pour chercher un itinéraire plus sûr. La montée avait été épuisante, et Lourdes sacra tout bas en faisant demi-tour pour redescendre à la suite des autres dans la cuvette glacée que nous nous apprêtions à quitter. L'éclat estival du ciel reflété par la neige blanche et bleue nous éblouissait. Nous plissions les yeux à en pleurer et à en avoir mal aux sourcils. Et Piotr nous pressait toujours d'avancer. Notre marche fut beaucoup plus longue ce deuxième jour que la veille, tant en distance qu'en durée. Le soleil entama sa lente glissade sur l'horizon, et nous poursuivîmes notre progression, Lourdes et moi, largement à la traîne. Je me demandais si Piotr ordonnerait une halte pour la nuit. Par deux fois, mon compagnon s'était arrêté en refusant de continuer. Il était fatigué. L'humidité s'infiltrait dans ses bottes et ses chausses, il avait froid, il avait faim et il avait soif. Ses plaintes reprenaient les miennes point par point, et les entendre énoncer d'un ton geignard les rendait encore plus insupportables. J'avais déjà bien assez de mal à m'obliger à mettre un pied devant l'autre sans devoir en faire autant pour lui. Sa musique se composait de percussions sourdes dirigées contre moi. Grêle constante et acharnée de coups faits, du crissement de nos pas sur la neige et du son aigu des bâtons qui s'enfonçaient dans les cristaux glacés. Si je marchais devant lui, il prenait rapidement un retard considérable sur moi, si bien que je devais rester derrière lui et supporter ses sondages interminables et méthodiques avant chacune de ses courtes enjambées. Comme les ombres du soir s'allongeaient, j'eus le sentiment de participer à une répétition de la journée précédente. Je bouillais derrière l'our, et à mesure que nous avancions un pas lent après l'autre, la situation me devenait de plus en plus intolérable. Ma colère grandissait peu à peu, mais régulièrement, comme un feu qu'on alimente d'un morceau de charbon après l'autre. Depuis quand m'avait-on fait endosser ce rôle? Pourquoi l'acceptais-je? Pourquoi Humbre m'avait-il choisi pour cette fonction humiliante? Sûrement pour me punir, pour me rabaisser. J'avais combattu pour les loin-voyants jadis, mais aujourd'hui, pour se venger de la liberté que j'avais reprise, Humbre me dégradait en m'obligeant à jouer les bonnes d'enfants pour un idiot gras et puant. J'avais beau tenter de retrouver les raisons logiques qui avaient fait de moi le chien de garde de l'ours, de me demander qui d'autre pourrait surveiller quelqu'un d'aussi puissant que lui, je ne parvenais plus à me persuader de la nécessité de cette répugnante corvée. Mes pensées sombraient de plus en plus dans un abîme sans fond de frustration, de rage et de rancœur. Avec un effort, je me maîtrisais pour inciter d'une voix suave l'ours à continuer d'avancer. « S'il te plaît, marche un peu plus rapidement, l'ours. Regarde, ils ont commencé à monter le camp. Tu n'as pas envie d'y arriver vite pour te sécher et te réchauffer ?» Il leva vers moi un œil mauvais.
« Tu dis des mots gentils, mais je sais ce que tu penses de moi. C'est comme des poignards, des cailloux et des gourdins. Mais n'oublie pas que c'est toi qui m'as obligé à venir ici, et que si tu essayes de me faire du mal, je peux te faire encore plus mal, parce que je suis plus fort que toi. Je suis plus fort, et tu ne peux pas m'obliger à t'obéir. »
Il avait commis l'erreur de me prévenir. Je dressai mes remparts mentaux, tout en rassemblant ma puissance pour riposter. Et dans l'instant qui précéda son coup de boutoir d'art, je m'aperçus que toute animosité à son encontre s'était éteinte, comme un feu soudain étouffé sous une couverture mouillée. Son attaque me frappa comme un marteau qui s'abat sur un morceau de fromage. Il ne m'avait pas touché, mais j'eus l'impression qu'il me broyait tout entier dans son poing. Je chancelai, puis m'écroulai avec la sensation que le sang devait gicler par tous les pores de ma peau. Et l'ours demanda tout à coup.
« Pourquoi on est en colère? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?»
On eût cru la plainte d'un enfant égaré. Il avait dû dresser lui aussi ses murailles comme moi, et sentir comme moi sa fureur se dissiper alors. Embarrassé par la neige, il se dirigea vers moi, toujours étendu par terre, alors que la pluie qui menaçait depuis le matin commençait à tomber dru. Je roulais de côté pour éviter la main qu'il tendait vers moi, sachant qu'il voulait m'aider, mais craignant qu'à son contact, mes remparts d'art ne s'effondrent. « Je n'ai rien, l'ours, je t'assure. J'ai seulement un peu envie de vomir. » Et aussi le cerveau embrumé, et les mains qui tremblent irrépressiblement et mal partout comme si un cheval m'avait jeté au sol. Je ramenais mes genoux sous moi et me relevais en titubant. « Non, l'ours, ne me touche pas. Mais écoute, écoute. Quelqu'un essaie de nous tromper. Quelqu'un se sert de notre propre magie pour mettre de mauvaises pensées dans nos têtes. Quelqu'un que nous ne connaissons pas. » J'en avais la conviction subite et absolue. On utilisait l'art contre nous.
« Quelqu'un qu'on ne connaît pas, »
répéta-t-il d'un ton monocorde. Je sentais confusément Devoir qui tentait de m'artiser. Il avait sans doute perçu l'écho de l'assaut de l'ours contre moi. Je me risquais à baisser un instant mes défenses pour avertir le prince et Humbre. « Méfiez-vous, protégez vos pensées. » Puis, je relevai brutalement mes murailles pour barrer le passage au tâtonnement d'art insidieux qui cherchait de nouveau à pénétrer dans mon esprit. Il fallait que je contre-attaque, ou du moins que je remonte le fil d'art jusqu'à son hauteur. Je dus faire appel à tout mon courage pour ouvrir mes remparts, puis j'artisais frénétiquement en tous sens pour découvrir qui avait empoisonné mes pensées pour me retourner contre l'ours. Je ne trouvais rien, ni personne. Humbre, devoir, et l'ours était là, l'esprit barré. J'eus envie d'essayer de contacter Horty, mais m'en abstins. L'agresseur ignorait peut-être son existence. Pas question que je la lui révèle. Je pris une grande inspiration hachée, puis rétablis mes défenses. Je n'en éprouvais qu'un sentiment de sécurité relatif. Un ennemi inconnu nous traquait, et je n'aurais de repos que je n'eusse tout découvert sur lui.
« C'est celui qui me donne des mauvais rêves aussi !»
déclara Lourdes d'un ton assuré. « Je ne sais pas. Peut-être. »«
Moi, je sais. C'est lui, le donneur de mauvais rêves. »
Il appuya ses paroles d'un hochement de tête convaincu. La pluie tombait à présent en continu, en chuintant au contact de la neige. J'espérais que nos compagnons avaient déjà monté les tentes et qu'un abri sec nous attendrait à notre arrivée. Toute la journée, l'humidité s'était infiltrée dans mes bottes et mes chausses. À présent, elle dégringolait à verse sur moi et parachevait ma désolation. « Viens, Lourdes, allons au camp, » dis-je, et nous nous mîmes en route, à pas mal assuré dans la neige détrempée qui s'enfonçait inégalement sous nos pieds. « Garde tes murailles d'art bien dressées, » conseillai-je à Lourdes. Quelqu'un essayait de nous faire penser de mauvaises choses l'un sur l'autre. Il ne sait pas que nous sommes amis, et il voulait nous obliger à nous entretuer. Lourdes me lança un regard douloureux.
« Des fois on est amis, d'autres fois on se bat. »
Il avait raison. Il était vrai aussi que jouer les nounous auprès de lui m'exaspérait. L'ennemi avait découvert ma rancœur et ma colère envers lui et les avait attisés. Comme vérité cherchait autrefois la peur ou la présomption chez les pirates rouges et les avivait jusqu'à ce qu'ils commettent une erreur fatale. J'avais fait l'objet d'une attaque subtile et soigneusement conçue par quelqu'un qui avait assez pénétré mon esprit pour percevoir des sentiments que je cachais à tous. Cela m'effrayait. « Nous nous battons parfois, en effet, » dis-je à Lourdes, « mais nous ne nous faisons jamais vraiment de mal. Nous ne sommes pas d'accord. Ça arrive souvent entre amis. Mais nous ne nous sautons pas à la gorge, même quand nous sommes en colère. Nous n'essayons pas de nous faire du mal parce que nous sommes amis. » Il poussa un grand soupir.
« Moi, j'ai voulu te faire du mal. Sur le bateau, je t'ai obligé à te cogner partout. Maintenant, je regrette. »
Jamais on ne m'avait présenté d'excuses plus sincères. Je devais lui rendre l'appareil. Et moi, je regrette d'avoir dû te forcer à venir ici à bord d'un navire.
Je te pardonne, je crois, mais je serai encore très en colère contre toi si tu me mets dans un bateau pour retourner à la maison.
C'est équitable, répondis-je après un instant de réflexion. Je m'efforçais de dissimuler ma crainte et mon découragement anticipé. À mon grand saisissement, l'ours s'arrêta soudain et me prit la main. Malgré mes remparts d'art, je perçus la chaleur calme de son estime.
« Je me mettais toujours en colère quand ma maman me lavait les oreilles, » dit-il. « Mais elle savait que je l'aimais. Je t'aime aussi, Tom. Tu m'as donné un flutio et puis un gâteau rose avec du sucre. « J'essaierai de ne plus être méchant avec toi. »
La simplicité de cette déclaration me laissa démonter. Les lèvres molles, la langue sortie, il me scrutait de ses petits yeux ronds sous son bonnet de laine. Il avait l'air d'un crapaud, et son nez coulait. Il y avait longtemps que personne ne m'avait offert son affection avec tant de franchise et de clarté. Curieusement, le loup s'éveilla en moi. Et il me sembla voir la queue d'œil de nuit se balancer lentement en signe d'acceptation. Nous étions de la même meute. Moi aussi je t'aime, Lourdes. Viens, allons nous abriter au sec. La pluie s'était refroidie et virée au grésil quand nous parvînmes au bivouac. Humbre se porta à notre rencontre. Dès que je pus lui glisser un mot à l'oreille, je le prévins. Gardez vos murailles mentales bien en place. Quelqu'un a tenté de nous brouiller les idées par l'art, comme vérité égarait l'esprit de nos ennemis pendant la guerre des pirates rouges. Il a cherché à nous dresser l'un contre l'autre, lourd et moi, et il a bien failli réussir.
« Qui se cache derrière cette manipulation ?»
demanda-t-il comme s'il croyait vraiment que je le savais.
« Les gens des mauvais rêves !»
dit Lourd avec le plus grand sérieux. Je haussai les épaules quand Humbre se renfrogna. Je n'avais pas de meilleure réponse à lui proposer. Cette nuit-là, nous logeâmes dans des conditions misérables. Tout était humide, voire trempé, et les petits feux que nous auraient permis nos précieuses réserves de combustible refusaient de prendre. Encore une fois, Piotr délimita le camp. Puis, il se risqua à se porter en éclaireur pour choisir notre trajet du lendemain. Une lueur sourde semblable à celle d'une bougie éclairait la tente de la Narcheska. Celle du fou ressemblait à une fleur resplendissante et séduisante dans la nuit. Et je n'aspirais qu'à m'y rendre. Mais Humbre avait exigé que je reste avec lui, et je reconnaissais la nécessité de lui faire un compte-rendu détaillé. Les vêtements suspendus chez le prince réduisaient encore l'espace, et nul ne feignait d'espérer qu'ils auraient séché le matin venu. Humbre et Devoir s'étaient déjà changés. Une grosse chandelle dans une coupe de métal s'efforçait tristement de chauffer l'eau d'une casserole. Je pris le manteau et les bottes de Lourd et les secouai au dehors pour les débarrasser des blocs de neige spongieuse collés sur eux. Tandis que le petit homme enfilait une longue chemise de laine et des chaussettes sèches. Par un contraste curieux, le fait de ressortir de la tente me donna l'impression que le vent humide était devenu plus mordant. Je rentrai les affaires de Lourd et trouvai une place par terre pour les étendre. Reprendre la marche le lendemain dans des habits moites et froids n'aurait rien de plaisant, mais je songeais amèrement qu'on n'y pouvait rien. Je ne pus m'empêcher néanmoins d'observer d'un ton aigre. J'ai souvent entendu les ménestrels décrire des quêtes où il fallait tuer des monstres pour de belles damoiselles, mais jamais comme celle-ci.
« C'est vrai !»
acquiesça Lourd d'un air accablé.
« Il devrait y avoir des épées et du sang, pas cette bête neige toute mouillée !»
« À mon avis, les épées et le sang ne te plairaient pas davantage que la neige, Lourd, » répondit le prince d'un ton lugubre, mais sur le moment, j'eus tendance à partager l'opinion du petit homme. Une bataille sans quartier commençait à me sembler préférable à ce pénible et interminable trajet. Avec la chance qui me caractérisait, j'aurais sans doute droit aux deux avant la fin de l'aventure. « Nous avons un ennemi, » annonçai-je, « un ennemi capable d'employer l'art contre nous. »«
Oui, tu nous l'as dit, » fit Humbre, « mais Devoir et moi en avons discuté, et nous n'avons rien ressenti de ce que tu décris. »
Il versa l'eau à peine tiède sur les herbes à tisane avec une expression sceptique. Je restai pantois un moment. J'avais pensé que l'attaque avait concerné tous les membres du clan. Je fis part de cette idée à mes compagnons et ajoutai « Pourquoi ne viser que Lourd et moi ? Selon toute apparence, nous faisons partie de la plus basse domesticité du prince.
Un artiseur doit se rendre compte que vous n'êtes pas ce que vous paraissez. » Peut-être l'agresseur a-t-il remarqué la puissance de Lourd et tenté de se débarrasser de vous deux en vous opposant.
Mais pourquoi ne pas frapper tout de suite le prince et son conseiller? Pourquoi ne pas vous opposer, vous, et semer la zizanie à la tête de l'expédition au lieu de commencer par le bas de la hiérarchie?
Effectivement, il nous serait utile de l'apprendre, admit Humbre après un instant de réflexion. Mais nous l'ignorons. De fait, nous savons seulement que Lourd et toi avez le sentiment d'avoir fait l'objet d'une attaque. Le prince et moi n'avons rien perçu avant que vous ne vous sautiez à la gorge. »
Et c'était impressionnant, enchaîna Devoir en se massant les tempes d'un air las. Il bâilla soudain à s'en décrocher la mâchoire. « J'aimerais en avoir déjà fini de cette affaire, » murmura-t-il. « Je suis fatigué, j'ai froid, et la tâche qui m'attend ne suscite nullement mon enthousiasme. »
« Attention, vous pourriez être sous l'effet d'une influence d'art subtil, » lui dis-je. « Votre père employait sa magie ainsi pour égarer les hommes de barre des navires pirates et les jeter sur les écueils. »
Le prince secoua la tête. « Je tiens mes murailles dressées. Non, ce découragement m'est propre. » Il regarda Humbre verser de la tisane dans une tasse, observer le liquide jaunâtre et le remettre à infuser dans la théière.
« L'art n'a rien à y voir. »
enchérit le vieillard d'un ton mordant.
C'est ce fichu fou qui parle au clan de Vif et aux représentants du Edgurd, inspire de la sympathie pour le dragon et joue avec les superstitions des Outrédiens. Restez ferme dans votre résolution, mon prince. N'oubliez pas que vous avez donné votre parole à la Narcheska de déposer la tête du monstre dans l'âtre de ses mères.
En effet, fit Piotr en soulevant le rabat de la tente. Puis-je entrer?
Je vous en prie, répondit Devoir.
Et je n'oublie pas ma promesse, mais je n'ai pas juré de prendre plaisir à la tenir.
Mon vif m'avait prévenu que quelqu'un approchait, mais je pensais voir l'Est ou Crible.
Qu'est-ce qui amenait l'Outrilien?
J'espérais qu'il n'attendrait pas mon départ pour exposer les raisons de sa visite, mais non, il parut accepter ma présence, car il me salua de la tête. Au lieu de se lancer, comme je le prévoyais, dans une description inquiétante du trajet du lendemain, il eut un sourire dur.
La journée n'a été plaisante pour personne, et celle de demain sera aussi pénible. Après une marche aussi inconfortable dans le froid et l'humidité, je voudrais partager avec vous le remède que nous employons pour nous réconforter.
Il poussa un grand soupir.
Ce temps ne nous facilitera pas la tâche. La pluie ronge la neige et affaiblit des zones jusque-là solides. Demain, il faudra se méfier des avalanches, autant que des crevasses, quand nous franchirons le col de l'île.
Tout en parlant, il avait déballé un paquet enveloppé d'un carré de tissu taché. J'avais faim et l'odorat vif. J'ignorais de quoi se composait le pavé sombre qu'il tenait dans ses mains, mais on l'avait imbibé d'alcool pour le conserver. Il en rompit un morceau, et j'identifiais dans la pâte des raisins secs, des bouts de graisse, et apparemment des tranches de pommes séchées. L'arôme alcoolisé s'intensifia. L'ours se redressa sur son séant avec une expression de convoitise et de circonspection mélangée. Mon esprit restait barré à son art, mais je perçus vaguement son inquiétude. Le gâteau aurait-il goût d'huile de poisson? Piotr dut remarquer mon regard avide, car il m'offrit la première part avec un sourire compréhensif.
« On dirait que c'est vous qui souffrez encore le plus du froid et de l'humidité ce soir, » fit-il. Et il avait raison, car mes compagnons avaient déjà enfilé des vêtements plus secs.
J'acceptai donc avec reconnaissance, et comme je mordais dans la pâtisserie, il reprit
« Nos guerriers appellent cela du pain de courage. On mélange du miel noir et épais, des fruits secs et des herbes fortifiantes, puis on trempe le tout dans de l'alcool pour qu'il se garde bien. Avec une seule portion, on peut se battre toute une journée ou marcher 2 jours d'affilée. »
Un goût sucré auquel se mêlait le piquant du spiritueux emplit ma bouche. En avalant, je perçus un arrière-goût familier. La douceur un peu écœurante du miel, de la graisse et des fruits camouflaient l'amertume de l'écorce elfique. Il fallait que j'avertisse Imbre, je le savais, alors même que mon organisme épuisé poussait un cri de joie dans l'attente de la montée d'énergie qu'allait lui procurer la drogue. Et le monde se tut soudain. J'ignore comment décrire autrement ce que je ressentis. J'avais pris conscience que je possédais le vif seulement lors de ma première rencontre avec des forgisés. Jamais je ne m'étais rendu compte qu'un sens supplémentaire me reliait à toutes les créatures avant de me trouver devant celle-là, que cette perception ne détectait pas. La forgisation arrachait ses victimes à la trame de la vie, transformait les humains en êtres coupés de tout, qui dévoraient, violaient et existaient sans la plus petite étincelle d'empathie ni de compassion pour le reste du monde. Je n'avais découvert que le vif me rattachait à tout ce qui vivait qu'à l'instant où je les avais affrontés. L'expérience que je subissais était similaire, mais inverse. Je voyais jusque-là dans l'art une magie qui ne me reliait qu'aux autres artiseurs, mais je me retrouvais brusquement coupé des innombrables et infimes connexions qu'il établissait avec tous mes contemporains. De la grande voix de l'humanité, du murmure constant des esprits et des pensées, ne restait qu'un silence absolu. Je sillais, puis tentais de me déboucher les oreilles en me demandant ce qui m'arrivait. Ma vue, mon ouïe, mon odorat, mon toucher fonctionnaient. Et je sentais le goût de la nourriture sur ma langue, mais un autre sens, inconnu et dépourvu de nom, jusqu'à présent avait disparu, éteint par cette seule bouchée. Je fis un effort prodigieux pour contacter Humbre et Devoir, mais ce fut comme si j'essayais de crisper une main insensible. Je me rappelais comment déclencher le mouvement, mais mes muscles restaient paralysés. En souriant, Piotr avait tendu un morceau de gâteau à Lourdes. Le petit homme avait la bouche ouverte et il y portait la confiserie. Je me précipitai, saisis son poignet et l'écartai. Il avança aussitôt le visage et ses dents claquèrent sur le vide en un geste qui aurait été comique s'il n'avait pas recélé un si grand danger pour notre clan.
« De l'écorce, elfique !»
Privé d'art, j'avais crié comme si je craignais que ma voix seule ne suffît pas à transmettre l'avertissement. Je me modérai aussitôt et feignis que mon interjection s'adressa à Lourdes seule. « Non, Lourdes, tu sais bien que cette plante te rend malade. » Donne-moi cette part de gâteau. Je te promets de te trouver une autre friandise. Non, Lourdes, s'il te plaît.
Quelle plante? Je ne suis pas malade. C'est à moi, à moi. Tu disais qu'on était amis et qu'on ne se ferait plus de mal. Lâche-moi. Ce n'est pas juste. C'est mal élevé de prendre sans demander.
Emporté par son amour des sucreries, il se démena pour m'empêcher de lui ravir sa part de gâteau. Je ne voulais pas courir le risque qu'il en avalât ne fût-ce qu'une miette. Jamais je n'avais eu une réaction aussi violente à l'écorce elfique. Je sentais une énergie formidable m'envahir et je me demandais dans quels abîmes de désespoir j'allais sombrer ensuite. Enfin, je parvins à m'emparer du morceau de pâtisserie. Lourdes s'assit par terre, eut un sanglot furieux, puis fut saisi d'une quinte de toux. Je remis promptement ma prise à Humbre avec cette mise en garde improvisée. « À votre place, je ne mangerai pas devant lui, messire. Je connais son avidité pour tout ce qui est sucré. S'il vous voit déguster ce gâteau sans lui, je redoute un éclat qui nous assourdira tous. » Humbre et Devoir tentait-il de m'artiser? Lourdes cherchait-il à me faire trébucher et tomber dans le feu pour se venger? Je ne sentais absolument rien. Je ne percevais pas le moindre effleurement d'art de leur part. Mon vif les savait toujours présents, et j'en tirais quelque réconfort, mais les fils d'art qui couraient entre nous avaient été tranchés. Piotr me regardait avec la mine sombre d'un homme enfoncé. Humbre réagit plus vite que je ne l'espérais.
« Ah oui, je me rappelle l'effet que l'écorce elfique a eu sur toi la dernière fois, Lourdes. Je ne tiens pas à ce que tu repasses par là. Alors ne fais pas d'histoire, sois gentil. Je suis sûr que nous te trouverons autre chose d'aussi bon à manger. »
Il se tourna vers Piotr et lui adressa un clin d'œil entendu.
Le compagnon du prince n'a pas pu fermer l'œil de toute la nuit et de la journée suivante. Puis il est tombé dans une mélancolie dont rien n'a pu le tirer pendant plusieurs jours. J'aimerais éviter ce genre d'ennui pendant notre expédition. Allons, Lourdes, ne fais pas si triste figure. Je crois que le prince Devoir a gardé pour toi quelques sucres d'orge.
L'intéressé fouillait déjà dans son sac. Humbre prit vivement la portion de gâteau à demi écrasée dans ma paume, la remit prestement avec le reste du pain de courage qu'il remballa dans son tissu et fourra dans son paquetage.
« Le prince et moi en savourerons un morceau plus tard, peut-être après que l'ours sera endormi, »
dit-il à Piotr à mi-voix.
« Pour ma part, j'apprécie les vertus d'une plante comme l'écorce elfique sur l'organisme du vieillard que je suis. Je ne savais pas qu'on s'en servait dans les îles d'outre-mer. »
L'écorce elfique. Piotr feignait-il l'ignorance? Nous ne connaissons pas de plantes aussi curieusement nommées. Il y a des herbes dans le gâteau, mais chaque maison des mères possède sa propre recette, dont elle garde secrète la liste des ingrédients avec un soin jaloux. Mais je puis vous dire que celui-ci provient de chez moi, de la maison maternelle de la Narcheska. Ce pain de courage soutient le clan du Narval depuis des générations.
Je n'en doute pas, s'exclama Humbre d'un air ravi. « Et je me réjouis d'avance de le goûter ce soir, ou peut-être demain matin au réveil, afin de profiter toute la journée de son effet revigorant après une bonne nuit de sommeil. Mon pauvre Tom, je sais l'effet que l'écorce elfique produit sur vous. Vous en tirez peut-être satisfaction pour l'instant, mais vous passerez probablement une nuit blanche. Je vous ai déjà prévenu plusieurs fois de ne pas en prendre le soir, mais sur ce sujet, autant parler à un mur, n'est-ce pas ?»
Je plaquai sur mes lèvres un sourire de connivence. « C'est vrai, messire Humbre. Vous pourriez me sermonner jusqu'à la fin des temps. Je n'en entendrai sûrement rien du tout. » D'après son léger changement d'expression, il dut me comprendre à demi-mot. Il se versa une tasse de tisane claire, en but une gorgée, puis se mit à tousser violemment, au bord du haut-le-cœur, et se frappa vigoureusement la poitrine du poing. D'une voix sifflante, il me dit
« Vous pouvez vous retirer, blaireau. Allez vous restaurer, mais veuillez repasser par ici avant de vous coucher. Je pense que l'ours souhaitera dormir avec nous. »
« Bien, monseigneur. » Le sens de sa pantomime ne m'avait pas échappé. Je quittai la tente et, par un trajet détourné, m'éloignai du camp. La pluie avait cessé, mais le vent soufflait toujours. Arrivé au périmètre de sécurité, j'enfonçai deux doigts dans ma gorge et m'évertuai à vomir le morceau de gâteau que j'avais avalé. Mais j'étais resté trop longtemps, le ventre vide, et mon estomac l'avait déjà assimilé. La creté du peu que je parvins à régurgiter me laissa tremblant. Je me rinçai la bouche avec une poignée de neige pour effacer le goût de bile, recouvris mes vomissures et retournai au bivouac, secoué de frissons, glacé par un froid pire que celui de la nuit. Quand on a fait une fois l'expérience de la traîtrise insidieuse du poison, je crois qu'on ne s'en remet jamais. Savoir qu'on a introduit un produit dans son organisme, sentir les changements qu'il y opère, la débilitation qui s'accentue à chaque battement de cœur, constitue une incursion dans l'horreur difficile à décrire. J'avais reconnu le goût de l'écorce elfique et déjà j'en ressentais les effets. Et si le gâteau renfermait d'autres drogues, des drogues que je n'avais pas décelées et dont je ne soupçonnais pas les actions destructrices en cours? Je m'efforçais de détourner mes pensées de ce précipice. Cela ne tenait pas debout. Piotr nous avait fait ce cadeau apparemment en toute bonne foi. Nous devions remplir la mission qu'il nous avait confiée de tuer le dragon. Pourquoi voudrait-il empoisonner l'un d'entre nous? Pourtant, je ne parvenais pas à voir seulement un mauvais tour du hasard dans le fait qu'il m'avait donné à ingérer précisément de l'écorce elfique sous une concentration telle qu'elle étouffait totalement ma magie. J'avais froid. Mes habits étaient imprégnés d'humidité et je tremblais comme une feuille. Je voulais recouvrer mon calme avant de rejoindre les autres gardes. Guidé par une sorte d'instinct qui me poussait à trouver un refuge, je m'arrêtai devant la tente du fou. Les mains engourdies, je cherchais le rabat. « Sire Doré, » fis-je à mi-voix, en me rappelant un peu tardivement qu'il avait peut-être des invités. Il dut percevoir dans mon ton une angoisse qui l'alerta, car il écarta aussitôt le rabat et me fit signe d'entrer, puis me dit « Ne bouge pas, tu vas mettre de l'eau partout. » Il s'était déjà changé et avait enfilé une longue robe noire et sèche qui paraissait épaisse et moelleuse. Je l'enviais. Piotr m'a offert un morceau de gâteau, mais il contenait de l'écorce elfique et j'ai perdu mon art. Les mots jaillirent de moi, hachés par mes claquements de dents.
« Déshabille-toi, tu es trempé. »
Il s'était mis à fouiller dans son paquetage dès mon arrivée. Il en tira un grand vêtement couleur cuivrée.
« Ça devrait aller. C'est plus chaud que ça en a l'air. Comment une seule bouchée d'écorce elfique a-t-elle pu te priver de ta magie? Jamais elle n'a eu cet effet sur toi ?»
Je secouai la tête.
« C'est pourtant ce qui m'arrive. En outre, quelqu'un a tenté de nous dresser, l'ours et moi, l'un contre l'autre par le biais de l'art. Il a failli réussir jusqu'au moment où j'ai cru que l'ours allait m'attaquer. Alors, j'ai mis mes murailles en place. Dès lors, je n'ai plus entendu que mes propres pensées, et j'ai compris que je ne lui en voulais pas vraiment de devoir passer mon temps à jouer les nounous avec lui. Ce n'est pas sa faute, et même si ce rôle ne me plaît pas, je ne peux pas le rendre responsable. Si je dois m'en prendre à quelqu'un, c'est à Imbre, c'est lui qui m'a mis dans cette position, et je crois que pour une bonne part, il s'efforce de me tenir occupé, pour me couper de toi et éviter que tu m'influences, parce qu'il désire que j'obéisse à ses ordres, sans chercher à réfléchir au
« Arrête !»
s'exclama le fou d'un air abasourdi. Je me tus aussitôt, puis m'apprêtai à lui demander ce qui n'allait pas, mais il leva la main pour m'interrompre.
« Écoute-toi, Fitz.
Jamais je ne t'ai entendu parler ainsi, à en perdre haleine.
Tu me fais peur. »
« C'est l'écorce elfique. »
Je tremblais d'une énergie que je ne dominais pas. Le dernier bout de tissu humide qui me couvrait tomba sur le tas avec un bruit mat. Je pris avec reconnaissance le vêtement que me tendait le fou, puis tressaillit en le sentant glacé dans mes mains.
« On dirait du métal. Qu'est-ce que c'est ? » Des écailles de poisson?
Fais-moi confiance et enfile-le. Ça se réchauffe très vite.
Je n'avais guère le choix. Je passai la longue robe par-dessus ma tête et elle tomba, m'enveloppant presque jusqu'aux pieds. Elle me serrait les épaules, je les fis rouler et me détendis soudain. Très curieux. Je la sentais trop étroite de carrure, mais il m'a suffi de bouger les bras pour qu'elle se mette à ma taille. Regarde, elle me descend jusqu'au poignet maintenant. On dirait une côte de maille d'une finesse extraordinaire. S'agit-il encore de la magie des anciens? Vient-elle du désert des pluies? J'aimerais savoir comment ils l'ont fabriquée et dans quels matériaux. Vois comme la teinte change à chacun de mes mouvements.
Fitz, cesse de jacasser ainsi. C'est tuant.
Le fou prit le paquet de mes vêtements et un filet d'eau en tomba quand il le souleva. Je vais les poser dehors en attendant qu'ils dégorgent. De toute manière, ils ne seront pas secs demain.
En as-tu d'autres?
Oui, dans mon sac. Mais je l'ai laissé dans la tente du prince, avec le tonnelet de poudre explosive d'Ambre. La plupart des affaires de l'ours s'y trouvent aussi, mais ce n'est pas grave parce qu'elle lui-même y couche et qu'il en aura besoin à son réveil. C'est aussi bien qu'elle reste chez le prince. Je m'aperçus que je recommençais à parler à tort et à travers, et je réussis à me taire avant l'intervention du fou. Pendant quelque temps encore, je frissonnais de froid, puis je sentis la robe me renvoyer peu à peu ma propre chaleur. Avec un soupir, je m'assis sur les couvertures du fou et ramenai sous moi mes pieds glacés. Un instant après, étendu, je me tournai et me retournai à la recherche d'une position confortable. Le fou rentra et m'observa avec curiosité alors que je me relevais et piétinais autour de sa petite bougie.
« Qu'y a-t-il ? »
« J'ai l'impression d'avoir des fourmis sous la peau. » Je repoussai de mon visage mes cheveux à la débandade et renouai ma queue de guerrier. « Je n'arrive pas à rester en place. Je n'arrive pas à m'arrêter de parler et de penser. » Mais je ne parviens pas non plus à faire le tri dans mes pensées. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Mes mains me parurent tout à coup disproportionnées. Je fis systématiquement craquer toutes mes articulations, puis relâcher mes doigts. Quand je relevai les yeux, je vis que le fou me contemplait, les mâchoires crispées. « Pardon, » fis-je aussitôt, « je ne peux pas m'en empêcher. »«
À l'évidence, »
murmura-t-il. Puis il ajouta plus haut. « J'aimerais être en mesure de t'aider. » Mais te donner une tisane lénifiante ne constitue peut-être pas la solution idéale, d'autant que je crains l'accablement qui devrait succéder à la folle envolée que tu subis. Jamais je ne t'ai vu aussi agité. Si tu sombres dans un désespoir à la mesure de ta présente extravagance, je m'inquiète pour nous tous. Je vis à son expression qu'il ne plaisantait pas. Moi aussi, je redoute cette perspective, ou plutôt, je sais que je devrais la redouter, mais je suis absolument incapable de concentrer mon esprit dessus. Trop de pensées me submergent par ailleurs. Comment sécher mes vêtements pour demain matin, par exemple? Je dois me présenter chez Ambre plus tard dans la soirée, mais je ne me vois pas me promener dans le camp vêtu de cette robe, bien qu'elle tienne chaud. D'un autre côté, l'idée de remettre mes habits mouillés me répugne, même pour franchir la courte distance qui me sépare de la tente de devoir. J'y ai laissé mon sac avec toutes mes affaires de rechange. Celle de Lourdes s'y trouve aussi, mais c'est aussi bien puisqu'il couche chez le prince et qu'il en aura besoin en se réveillant.
« Tais-toi !»
fit le fou d'un ton suppliant, interrompant mon flot de paroles.
« Tais-toi par pitié, Fitz, et laisse-moi réfléchir. »
Par le passé, l'écorce elfique n'a jamais fait qu'atténuer ton talent, et encore de façon provisoire. Pouvons-nous espérer que son effet s'estompera et que tu retrouveras ta magie ? J'eus un haussement d'épaule incontrôlé. « Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on puisse juger ce qui m'arrive aujourd'hui par l'action de cette drogue sur moi autrefois. T'ai-je raconté que l'ours avait bien failli en absorber aussi ?»«
Non. »
Tu ne m'en as rien dit ? Il s'exprimait d'un ton circonspect comme si je souffrais de démence légère, ce qui n'était peut-être pas faux.
Veux-tu essayer ? Cesse de tripoter ta lèvre et tes cheveux, croise les mains sur tes genoux et raconte-moi ta journée tout entière, s'il te plaît.
Je ne m'étais pas aperçu que je me tiraillais la lèvre inférieure. Je posais les mains sur mes cuisses et m'efforçais de lui rendre compte comme à Ambre. Je vis son visage prendre une expression de plus en plus grave, et je compris que les mots jaillissaient en grêle, en un récit sans cohérence, composé de bribes et de morceaux au gré des allers-retours de mon esprit. Avant de finir, je m'étais levé à nouveau et je tournais en rond dans la tente exiguë, incapable de maîtriser mon agitation. J'eus une inspiration subite.
« Tiens »
m'exclamai-je en m'avançant vers le fou, le poignet tendu.
« Vérifions si mon art a disparu aussi complètement que je le crois. Touche-moi. Tente de me joindre par l'art comme tu l'as déjà fait. »
Il me dévisagea bouche bée, puis un sourire contraint et incrédule apparut sur ses traits.
« C'est toi qui me demandes ça ?»«
Oui, naturellement. Voyons la gravité de mon atteinte. Si tu parviens encore à te lier à moi, peut-être que mon art me reviendra-t-il à mesure que l'écorce elfique se dissipera dans mon organisme. Essayons. » Je m'assis à côté de lui et posai mon bras sur son genou, le poignet tourné vers lui. Il baissa les yeux sur les empreintes ternies de ses doigts, puis me jeta un regard oblique.
« Non. »
Il s'écarta. « Tu n'es pas toi-même, Fitz. En temps ordinaire, jamais tu ne m'autoriserais un tel geste, et tu me prierais encore moins de l'accomplir.
Non.
Quoi ? Aurais-tu peur ? »
fis-je d'un ton de défi.
« Vas-y ! Qu'avons-nous à perdre ? »
Notre respect l'un pour l'autre. Si je commets pareil acte alors que tu es comme ivre. Non, Fitz, cesse de me tenter.
Ne t'en fais donc pas. Je n'aurais pas oublié demain que c'est moi qui ai proposé cette expérience. Il faut que je sache si ma magie a définitivement disparu.
Dans un coin de mon esprit, en retrait, l'angoisse me gagnait. J'aurais voulu tout arrêter, prendre le temps de la réflexion, mais mon impatience me poussait de l'avant.
Fonce, n'attends pas, fais n'importe quoi, mais tout de suite.
Le besoin d'agir, quelle que fût l'action, devenait irrépressible. Je saisis le bras mince du fou. Il ne portait pas de gants et ne résista pas. Comme si j'emboîtais les pièces d'un casse-tête, je posai sa main sur mon poignet. L'extrémité fraîche de ses doigts se plaça sur les traces qu'il avait laissées sur moi. J'attendis, mais ne ressentis rien. Je le regardais d'un air interrogateur. Il avait fermé les yeux. Au bout d'un moment, il les rouvrit. Son regard d'or avait une expression accablée. Incrédule, il dit
« Rien. Je perçois la chaleur de ta peau sous mes doigts. Je tends mon esprit vers le tien, mais tu n'es pas là. Et c'est tout. »
Mon cœur se serra, et je tentai aussitôt de nier l'observation du fou.
« Bah, ça ne prouve sans doute rien. Comme nous n'avions jamais essayé un tel contact jusqu'ici, de quel point de comparaison disposons-nous ?
D'aucun, d'absolument aucun. Demain, à mon réveil, j'aurai peut-être retrouvé toute ma puissance d'art. »
« Ou bien, rien n'aura changé ?»
fit le fou à mi-voix sans me quitter des yeux. Ses doigts restaient posés sur mon poignet.
« Nous ne parviendrons peut-être plus jamais à nous relire ainsi. »
« Ou bien rien n'aura changé, en effet. » acquiesçai-je, et je me lèverai aussi sourd et coupé du monde qu'en cet instant, peut-être. Je me redressai, l'obligeant à lâcher mon bras. Eh bien, inutile de se ronger les sangs, n'est-ce pas ? Autant se tourmenter à propos du temps qu'il fera demain. Adviendra ce qui adviendra. Je me tus, songeant que je devais calmer mon agitation. Et la question jaillit de mes lèvres sans que je pusse la retenir.
Crois-tu que Piotr est agi de propos délibérés, qu'il savait l'écorce elfique capable de détruire l'art? Mais comment aurait-il appris que je possédais cette magie? Et s'il veut que j'aide le prince à tuer le dragon, pourquoi me mettre hors d'état d'agir? À moins qu'il ne désire pas vraiment la mort de Glacefeu. Peut-être nous a-t-il attiré sur cette île pour que devoir échoue. Mais ça ne tient pas debout, si?
Ce déluge de questions parut laisser le fou hébété.
« Peux-tu te taire, Fitz ? »
demanda-t-il gravement. Et, après un instant de réflexion, je secouai la tête.
« Je ne crois pas, non, »
répondis-je sans cesser de m'agiter. Un sentiment de détresse m'envahit soudain. J'étais incapable de trouver une position confortable qui me permettrait de rester immobile. J'avais sommeil, mais j'ignorais comment me détendre pour m'endormir. J'aurais voulu que tout cesse et me laisse en paix. J'enfouis mon visage dans mes mains. J'ai passé ma vie entière à tout rater.
J'ai l'impression que la nuit sera longue,
dit le fou d'un ton lugubre.